Soyez bénis ce matin. Je me sens assez fébrile. Mon corps, il est fatigué, mais mon esprit est encore vivant. Donc, soyez bénis. J'ai bien aimé ce culte ce matin. Je travaillais sur un thème qui est assez récurrent. Il y a quelques mois où je progresse dans ce thème-là, c'est sur le pardon. Je vous en avais apporté une partie il y a 2 mois par là. Et puis, en même temps, j'écoutais des choses sur Internet. Et puis, dans la conversation, j'ai entendu des choses qui ne m'ont pas plu du tout, qui m'ont même horripilé, et notamment, fais voir comment t'es habillé, je te dirai si tu vivras éternellement. Wow, ça vous fait drôle, hein? Mais là, mon oreille s'est tout de suite tendue. Et je me suis dit, là. Alors je me suis dit, il ne faut pas que je laisse passer ça pour moi. Et j'ai donc intitulé mon message ce matin « Apparence quand tu nous tiens ». Alors, il me semblait mettre les choses en ordre, les choses à plat. Et bien entendu, mon propos ce matin n'est pas de parler du vestimentaire. Malgré qu'on soit les uns et les autres sous le diktat des publicités, des modes, du look qu'il faut avoir. Et ça me paraît sans doute important, notamment les jeunes. Hein? Oui, si vous n'êtes pas habillé pareil que les copains ou les copines, vous n'existez pas. Eh oui. Alors c'est vrai que ce que je viens de dire, ça peut prêter à sourire, même à rire, mais nous sommes malheureusement imprégnés de ces choses-là, même nous, chrétiens. Alors je me dis, mais est-ce que l'apparence, c'est important pour nous, chrétiens ? Est-ce que l'apparence, est-ce que c'est vraiment chrétien? Ah. Moi, ayant vécu une longue expérience de vie chrétienne, vous vous en doutez, j'ai vu des choses. Et c'est vrai que quand on regarde chacune des religions, les coutumes qui y sont perpétrées, les règles, les lois, le bon look, oui. Et je me suis dit, mais chaque religion a ses coutumes. Je me souviens du temps où on était en costume 3 pièces, cravate. Les anciens s'en souviennent. Il n'y aurait jamais eu un prédicateur qui serait venu devant vous sans la cravate, ni le costume. Et j'ai été pendant des années celui-là. Donc c'est pour ça que je peux en parler librement. Oui, c'est vrai. Puis il y en a d'autres qui viennent, on dirait que c'est vraiment des agents, des vrais commerciaux qui arrivent. On se dit, on n'a rien à acheter ici. On donne ici et on reçoit. Et puis d'autres viennent avec l'argenterie. Puis d'autres avec des habillements de toutes les couleurs. C'est tout très, très bigarré. D'autres viennent avec des franges et d'autres avec certains rites. Mais je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'idolâtrie dans tout cela? Oh, je sais, on va dire, il faut être bien, il faut être beau pour venir au culte. N'est-ce pas? Et les sœurs, notamment, rivalisent d'ingéniosité pour venir au culte. Je me dis, elles se sont bien habillées, se sont bien fardées, c'est pour le Seigneur ou pour moi? Vous voyez, je vous laisse le temps de... Oui, voilà. Faut rire un petit peu. Mais Jésus nous a dit, vous n'êtes pas du monde. Ah. Et vous, mes frères et sœurs, vous ne faites pas partie du monde. Jésus a bien dit dans Jean chapitre 15, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Et il aimerait ce qui lui appartient en propre. Mais vous appartenez pas au monde, que sache. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ouais. Et je me suis dit, en préparant ce message, qui est d'ailleurs pas fini, hein, je vous le livre en vrac ce matin, hein. Excusez-moi, il n'y a pas vraiment une structure. Et je me suis dit, et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Quel est son point de vue? Alors j'ai recherché dans Bible Unlocked, excusez mon anglais, parce qu'il y a des vrais anglais ici, alors il faut faire attention. Et j'ai été étonné de voir que le mot apparence est beaucoup cité dans la Bible. Beaucoup cité. Jésus, dans les évangiles, on trouve des textes, Matthieu 22, ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. » Matthieu 23, 14, on va lire quelques versets. Je veux dire que c'est pas très structuré mon affaire. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Boum, on est dans la prière maintenant. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Et puis on trouve dans Luc au chapitre 20, par exemple, les gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, que tu ne regardes pas l'apparence, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Boum, la vérité. Boum. Et puis Jean 7, 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Maintenant, c'est la justice. Waouh. Puis dans Corinthiens 2, Corinthiens 10, 1, moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté, moi, humble d'apparence. Paul, moi, humble d'apparence. Ouais. Quand je suis au milieu de vous, mais plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Et puis 2 Corinthiens 10, 7, vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est en Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Philippiens 1, 18, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et puis, Colossiens, vous voyez, il y en a partout, partout, vous lisez, vous ne pouvez pas lire votre Bible, vous n'allez pas trouver le mot apparence. Colossiens 2, 18, qu'aucun homme sous l'apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles. Et puis Colossiens, chapitre 2, 23, ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Et puis je termine là, 2 Timothée 3, 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Eh oui. Alors c'est vrai, tout à l'heure je vous disais, qu'est-ce que Dieu pense de tout cela? Quelle est vraiment la pensée de Dieu? Alors c'est vrai que Je me suis dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de chercher. Mais où trouver? Et il n'y a qu'un seul endroit où on peut trouver la vérité, c'est dans... Coucou. La parole de Dieu, pas la mienne, de Dieu. Oui. C'est vrai qu'il est dit que Dieu ne voit pas comme nous voyons, mais que Dieu, il regarde au cœur. Un des premiers exemples frappants est l'exemple avec Samuel quand il devait aller chercher un roi pour Israël de la part de Dieu. Et naturellement, Samuel, eh bien, quand il arrive, il s'est dit, tiens, super, j'ai trouvé le bonhomme qui va faire l'affaire pour Dieu. Wow. Il est beau. Il est grand. Il a l'air intelligent. Ouais. Alors, il va le faire un bon roi. Alors, il nous est dit, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Et il répondit, « Oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez vers moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. C'était la fête ! Merveilleux, ça ! Vous aimez la fête ? Vous aimez vous réjouir toujours ? Eh oui, la joie fait partie du plan de Dieu. Vous le savez, j'espère. Oui. Alors ils entrèrent et ils se dirent, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. 1 Samuel, chapitre 16, versets 4 à 6. Mais il est quand même intéressant de lire la suite. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Waouh! Ça vous refroidit tout de suite, hein? Ouais, ça vous refroidit tout de suite. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Verset 7. Waouh! Waouh! Vraiment! Je ne vois pas comme Dieu voit. Va falloir que, c'est vrai, que j'aille à l'occultiste. Va falloir que je change mes lunettes. Oculiste, pardon. Ah oui, vous pensez que j'allais voir les sciences occultes, c'est ça? Ah mais vous avez fait tout de suite le distinguo quand même. Hein? Excusez-moi pour mes erreurs. Je suis fatigué. Hein? Ça se voit. Oui. Mais on s'aperçoit que c'est sans compter sur les qualités de Dieu. Et quand on regarde ce passage en question, c'est comme si Dieu disait à Samuel 16, 7, le Seigneur dit à Samuel, n'ayez égard ni à la bonne mine, ni à sa taille avantageuse, parce que je l'ai rejeté et que je ne juge pas avec les yeux des hommes, car l'homme ne voit que ce qui lui paraît au dehors, mais le Seigneur regarde au cœur. Ouh, voilà. Alors normalement, j'aurais dû prévoir une vidéo, et ben, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps. Et je voulais ressouligner cette phrase, car l'homme ne voit que ce qui paraît au dehors, mais le Seigneur regarde au cœur. Alors, est-ce que ce n'est pas une piste pour nous? Est-ce que ce n'est pas une superbe déclaration de Dieu, là? Où là, on voit, et où on perçoit vraiment le caractère de Dieu. Quand je regarde dans les textes, lorsque Jésus était sur la terre, il y avait des choses qui n'allaient pas forcément bien. Alors aujourd'hui, ça ne s'est pas forcément amélioré, c'est vrai. Mais quand on regarde les passages de l'Évangile, dans Luc et puis dans Matthieu, par exemple Luc 11, 37 à 44, quand il eut parlé, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Or, le pharisien vit avec étonnement qu'il n'avait pas auparavant fait l'ablution avant de dîner. Le Seigneur lui dit, « Vous donc, pharisiens, vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, mais en vous, le dedans est plein de rapines, de malice insensée. Celui qui fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ? Toutefois, donnez l'aumône selon vos moyens, voici ce qui est pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, du légume, la taxe d'habitation. » Non, ce n'est pas dans le texte. Mais c'est un peu ça. Ça, vous ne le négligez pas parce qu'on vous l'impose. Malheur à vous, parce que vous laissez de côté la justice et l'amour de Dieu. Il fallait pratiquer tout ce que vous faites, mais en plus, il ne faut pas négliger l'amour de Dieu. Il ne faut pas négliger la justice de Dieu. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège. Ah oui, je suis toujours devant, moi j'aime bien être devant. Oui. Vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les saluts sur les places publiques. Malheur à vous parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on passe sans le voir. Bon. Puis le deuxième texte de Matthieu 15, 1-6. Alors les pharisiens et les scribes venus à Jérusalem s'approchèrent de Jésus disant « Pourquoi vos disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains lorsqu'ils mangent. » Bon, j'espère que vous vous lavez les mains avant de manger. Hein. Plutôt deux fois qu'une. Oui. Ah ouais. Il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous ? Transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et quiconque maudira son père ou sa mère, qu'il soit puni de mort. Mais vous, vous dites, quiconque dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu vous assister est une offrande, n'a pas à honorer, entre guillemets, autrement, son père ou sa mère. Et vous avez mis à néant la parole de Dieu par votre tradition. » Voilà. Vous voyez où l'apparence se cache. C'est cela que la Bible est en train de nous montrer. Et c'est pourquoi elle dit « Ne jugez pas sur l'apparence. » Encore quelques passages trouvés dans la Bible qui me paraissent aussi intéressants dans Jean chapitre 5, versets 8 à 19. C'est assez long. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et à cet instant, l'homme fut guéri, il prit son grabat et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc qu'il avait été guéri. C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton grabat. Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton grabat et marche. Ah. » Si celui qui l'a dit, il faut le faire. Eh oui. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était esquivé grâce à la foule qui était à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri maintenant, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi il persécutait Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » Sur quoi les Juifs cherchaient encore plus d'ardeur à le faire mourir, parce que non content de violer le sabbat, il disait encore que Dieu était son Père. Ah ben, dites donc, Quelle abomination! Se faisant égal à Dieu, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que fait le Père, le Fils aussi le fait pareillement. » Wow. Ah, Jésus bouscule tout ce qui était apparence, tout ce qui était tradition, tout ce qu'on fait par habitude, tout ce qu'on fait par routine, qui souvent n'a pas de sens, on ne sait pas pourquoi on fait ça. On l'a toujours fait, alors on continue à le faire. Il ne faut surtout pas déroger. Eh oui. Un autre exemple, dans Jean 9, 13, 16, ils menèrent aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et ouvert les yeux de l'aveugle. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Il leur dit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, et je suis lavé, et je vois. Alléluia !» Et vous vous réjouissez pas avec l'aveugle, là? Jésus vient de faire un miracle. Jésus vient de guérir cet homme. Ben non, ils ne sont pas contents. Ils sont pas contents, les pharisiens. Ça dérange leurs habitudes, ça dérange la tradition, ça dérange leurs lois. Parce que c'est des lois d'hommes qu'ils se sont mis, des contraintes qu'ils se sont mis. Et nous, chrétiens, ne nous mettons-nous pas des contraintes parfois? Eh oui. Jésus a dit, c'est pour la liberté, vous avez été affranchis. Vous n'êtes plus esclaves. Vous n'êtes plus des esclaves. Oui. Voilà. Cet homme avait recouvré la vue. Il a mis sur mes yeux de la boue et je suis lavé. Et je vois. Fallait-il qu'il reste encore aveugle, cet homme-là? Fallait qu'il attende le lendemain ou trois jours après pour qu'il soit guéri? Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Oui, c'est ce qu'il nous est montré à travers ces textes. Dans Matthieu, au chapitre 12, versets 9 à 14, il est dit, « Ayant quitté ce lieu, ils s'en vint dans leur synagogue. Or, il se trouvait là un homme qui avait la main sèche et lui demandèrent, « Est-il permis de guérir le jour du sabbat ?» Vous voyez, c'est récurrent, ça vient toujours. Et il cherchait un prétexte pour l'accuser. Quel sera celui d'entre vous qui, n'ayant une brebis, si elle tombe dans une fosse un jour de sabbat, ne la prendra pas pour la retirer? Or, combien d'hommes vaut plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Amen. Il est même permis de faire du bien le dimanche. Amen. Oui? Ah, imaginez, vous voyez, ce matin, vous êtes bien préparé pour venir au culte, et d'un seul coup, vous avez une fuite d'eau dans la salle de bain ou dans votre garage. Qu'est-ce que vous faites? Je l'attendais, c'est là. Moi, j'aurais dit, je ferme le compteur. Mais quand il y a 10 cm d'eau dans la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous venez au culte et vous dites, je verrai ça quand je vais rentrer? Hein? Mais c'était ça, à cette époque-là. Quand il dit, s'il y a une brebis qui est tombée dans le puits, qu'est-ce que vous faites? Vous la laissez, là, mourir dans le puits? Vous allez la retirer. Je vous pose la question à vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir pour faire plaisir à Gérard, pour venir au culte? Ah, ouais, il est content quand on est là. Oui, oui, c'est vrai. Eh oui, vous voyez comme quoi il y a des principes et des apparences qui sont là, qui font que d'un seul coup ça remet des idées en place de tout ça. Oui, combien un homme vaut plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Et il étendit, et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens étant sortis prirent une délibération contre lui sur les moyens de le perdre. Ah, moi je suis toujours révolté quand il y a des gens qui s'opposent à ce qu'on fasse du bien aux autres, à ce que Jésus fasse du bien à nos cœurs, à nos vies, et même à d'autres que nous. Je me réjouis et je bénis Dieu. Et que vous soyez, vous, bénis de Dieu, même le dimanche, vous vous rendez compte. Hein? Alors vous allez me dire, ce n'est pas le jour du sabbat, alors vous avez de la chance. Jean chapitre 7, verset 20. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Vous voyez, Jésus fait toujours des bonnes choses, des belles choses pour chacun de ses concitoyens. Et malheureusement, ça ne plaît pas aux hommes religieux, aux pharisiens. Ça dérange beaucoup parce que ce n'est pas le jour. Eh oui, comme s'il y avait un jour particulier pour guérir, comme s'il y avait un jour particulier pour mourir, comme s'il y avait un jour particulier pour vivre. Non. Voilà. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, vous êtes possédés du démon. Qui est-ce qui cherche à vous faire mourir? Jésus leur dit, j'ai fait une seule œuvre et vous voilà tous hors de vous-même. Moïse vous a donné la circoncision, non celle qui vient de Moïse, mais celle des patriarches, et vous la pratiquez le jour du sabbat. Que si, pour ne pas violer la loi de Moïse, on circoncit le jour du sabbat, comment vous indignez-vous contre moi? Parce que le jour du sabbat, j'ai guéri un homme dans tout son corps. Ne jugez point sur l'apparence, mais jugez selon la justice. C'est cela que Dieu nous demande. Alors, c'est vrai, je me dis, en préparant cela, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. J'en étais un petit peu, en reprenant tous ces textes, je me suis dit, je fais comme un rêve. Est-ce qu'il y a bien marqué, ne jugez point sur l'apparence, mais jugez sur la justice. Sommes-nous justes, mes frères et sœurs? Nous avons souvent des justices à plusieurs vitesses. Nous savons juger pour l'un, mais nous utilisons une autre règle de justice pour un autre. Dans tout cela, nous nous couvrons du voile de la justice de Dieu. Où on se sert par prétexte de la parole de Dieu pour appliquer aux autres ce que nous ne sommes pas toujours capables d'appliquer pour nous-mêmes. C'est cela qu'il nous est montré à travers ces textes. Ouais. Jésus dit, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 12, verset 45. Et il dira un petit peu plus loin, chapitre 14 et verset 9, « Il y a longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu aussi le Père. Comment peux-tu dire, montrez-nous le Père ?» Je vous le rappelle, mes frères et sœurs, c'est que Jésus reflète toutes les qualités de son Père. Imaginez par exemple que vous soyez un chef d'entreprise et que vous ayez un fils ou une fille, peu importe, à qui désormais vous confiez la direction de votre entreprise. Et s'adressant aux employés, vous dites, c'est mon fils, c'est ma fille à qui j'ai remis les rênes de la société. Il, elle, aura le souci de bien manager cette société. Il a été formé pour cela. Imaginez que les salariés ne fassent pas le travail comme ils devraient le faire. Alors, le fils à qui était remis la responsabilité leur dirait, ben voilà, hein, il y a telle ou telle chose qui ne vont pas. Vous ne les faites pas comme vous devriez les faire. Et je suis là pour vous dire ce que vous devrez faire et pour les faire comme il faut. Et c'est alors que les salariés bien diraient, ah non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est pas toi qu'on veut voir, on veut voir le Père. On veut voir le fondateur de l'entreprise. On veut voir ce que lui, il en pense. Parce qu'en réalité, c'est lui notre patron. Que pensez-vous de cette petite histoire? Est-ce que le Fils reflète les mêmes qualités, les mêmes pouvoirs, la même autorité que le Père, que le fondateur de l'entreprise? Oui. Il aurait les mêmes idées parce qu'il l'aurait formé lui-même. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre tous ces exemples que nous avons lus. Et je me dis en réalité, c'est super simple. Imaginez que l'entreprise Renault, aujourd'hui, dise, ah ben, nous, on voudrait faire les voitures comme du temps du père. On sera au Moyen-Âge, hein? Comme quoi les choses évoluent. Ça évolue avec l'esprit et la pensée de Dieu. Dieu nous aide en tout cela et nous dirige. Oui, c'est en Jésus, le Fils. C'est vrai que ce fils de l'entreprise était vu comme les gens d'une certaine époque. Et quand on regarde par exemple l'évangile de Matthieu, il est dit, ils lui envoyèrent, dans Matthieu chapitre 22, 16, et ils lui envoyèrent de leurs disciples avec des Hérodiens qui lui dirent, Maître, nous savons que tu es sincère, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans avoir égard à qui que ce soit, car tu ne regardes point l'apparence des hommes. Eh oui, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu enseigne. Jésus enseigne les voies de Dieu selon la vérité, sans avoir égard à qui que ce soit. Oui, ça rejoint ce texte du Seigneur, quand le Seigneur dit à Samuel, N'ayez égard ni à la bonne mine, ni à la taille avantageuse, parce que je l'ai rejeté. Dieu ne juge pas avec les yeux des hommes, car Dieu ne voit pas seulement ce qui paraît à l'extérieur, mais regarde à l'intérieur. Oui, nous voyons bien à travers tous ces textes, ils sont encore beaucoup plus nombreux, et je vous en fais grâce et je vous encourage à les rechercher et à les lire, et vous allez voir, il y a beaucoup à apprendre sur la vérité, sur la justice. Ce que nous devons pratiquer, j'allais dire, chaque jour. Dans Jacques, il est dit au chapitre 2, versets 1 à 4, Mes frères, n'ayez aucune acception de personne avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Si par exemple il entre dans votre assemblée un homme qui avait un anneau d'or, un vêtement magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre avec un habit sordide, et que, tournant vos regards vers celui qui est magnifiquement vêtu, vous lui disiez, Ah, toi, mon ami, viens sur le devant. Oui, viens à cette place d'honneur. N'est-ce pas pour faire entre vous des distinctions et vous établir juge aux pensées perverses? Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, mes frères. La loi vous dénonce comme étant coupable. Wow. Ah, quand on lit les choses dans d'autres traductions, ça nous bouscule un petit peu, hein. Ça nous dérange un peu. J'ai envie de dire ce matin que Jacques met les pieds dans le plat. Il dit que si on fait du favoritisme, et que ça existe dans nos églises, malheureusement. On peut faire du favoritisme même dans nos églises. Parce que celui-là, il est plus intelligent, parce que celui-là, il est plus capable, parce que celui-là, il a une bonne situation, etc. Oui, la parole de Dieu m'a bousculé. Parce que c'est vrai que parfois, on se dit, tiens, ah, il est apparemment bien. Vous savez, quand vous avez entendu comme moi ce qui s'est passé, la pauvre Marie-Lys, je crois, qui a été violée et tuée par un homme qui habitait à 20 mètres de la maison, mariée, avec des enfants, avec une apparence de bon père de famille, et qui 20 ans après, récidive. Voilà. Ça m'a fait réfléchir tout ça. Oui, l'apparence. Certains disent, oh, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais je me dis maintenant, peut-être que la confession, ça pourrait avoir du bien. Même si on ne va pas la mettre en pratique. Je vous laisse juger entre vous et Dieu. Oui, Jacques met les pieds dans le plat. Il me dérange parfois. Parce que si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. Alors peut-être que Paul, lui, aura compris autre chose de tout cela, de ce que nous venons de dire. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit ? Car nous ne venons pas nous recommander encore nous-mêmes auprès de vous, mais vous fournir l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de l'apparence et non de ce qui est dans le cœur. Ah, je crois bien, mes frères et sœurs, que les disciples, quelles que soient les différences d'âge qu'il pouvait y avoir entre les deux, entre Paul et puis les disciples de l'époque, eh bien, ils s'accordaient, ils avaient compris la même chose, ils avaient la même pensée de Dieu. Et sachant qu'ils pouvaient refléter et essayer de refléter les qualités divines, oh, sans doute, ça a l'air clair comme cela. Mais il y a encore du travail à faire dans nos cœurs, dans mon cœur. Conclusion. Alors, comme il est écrit, je me permets de vous dire, mes frères, ce matin, continuez à vérifier les Écritures. Continuez à plonger votre regard dans ce livre de vie qui est la parole de Dieu, qui est une parole vivante et permanente pour chacun d'entre nous, parce qu'elle est source de salut, source de grâce. Elle est la vérité avec un grand V. Oui, mes frères et sœurs, faites comme Dieu. Ne regardez pas l'apparence de l'homme. Quel que soit son habillement, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son statut social, Dieu lui regarde au cœur, et que ce qui est bon chez l'homme, hein, c'est important. Mais sachant qu'il y a aussi du mauvais dans l'homme. Oui. De quel droit aurions-nous pouvoir de dire, toi, si tu t'habilles pas d'une telle façon, tu n'auras pas accès à la vie éternelle? Ça me paraît vraiment quelque chose abominable. Ou tu n'auras pas accès à Dieu? Qui serions-nous pour dire de telles choses ce matin? Je pense que comme moi, si vous voulez refléter les qualités divines, vous ne jugerez pas l'apparence de l'homme, mais à son cœur. Et puis n'oubliez pas, pour terminer, n'oubliez pas que l'habit ne fait pas le moine. Que Dieu vous éclaire et vous garde. Amen.